carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
À Monaco, Diaghilev étonne encore. Pour réussir dans les domaines artistiques, il fallait être dans les ballets russes. Mais pour réussir dans les ballets russes, chaque printemps, il fallait être à Monaco. C'était dans les années 1909-1929, deux décennies fastueuses à la fois pour l'art de la danse et pour Monte-Carlo. Car sur le rocher, Diaghilev et sa troupe renouvelaient les spectacles de danse. Un public de toutes origines et des créateurs de toutes sortes sont tenus en haleine, sincèrement admiratifs ou, il faut bien le dire, parfois sincèrement scandalisés par cet art nouveau, un peu trop nouveau. Chorégraphes, compositeurs, écrivains, peintres, sculpteurs, décorateurs, stylistes de haute couture, tous reçoivent cette déferlante et tous s'en inspirent. Pendant 20 ans, Diaghilev a révolutionné le monde des arts et il s'agit bien d'une révolution car, après lui, plus rien ne sera comme avant. Fini les ballets d'autrefois. De juillet 2009 à juillet 2010, Monaco fête le centenaire des ballets russes. Ces festivités sont ouvertes par deux expositions autour de Diaghilev. L'une à la Villa Sauber jusqu'au 27 septembre 2009, l'autre dans la salle des arts du Sporting d'hiver jusqu'au 30 août 2009. Mais qui est Serge Diaghilev ? Né en 1872 en Russie, c'est un personnage étonnant, bouillonnant d'idées. Nature exceptionnellement active, énergique et désirant ardemment le renouveau de l'art russe, il tomba fort à propos, constate Lydia Loflova, vice-directeur général de la Galerie nationale Tretiakov. Diaghilev a été critique d'art, musicologue, organisateur de revues artistiques et littéraires. Il était un citoyen du monde, disait de lui John Bowlt. Lui, modestement, se présentait tout simplement comme un directeur de compagnie russe. Tout est dit et rien n'est défini. Car à côté de ce nom ou de ce titre, jaillit une foison d'autres noms, d'images, de musique, de ballets, de tableaux et de mouvements. À la Villa Sauber à Monaco, qui est le siège du nouveau musée national de Monaco, les ballets russes dansent. Rien ne semble manquer dans les vitrines, sur les murs et sur les cintres pour faire plonger dans ce bouillonnement révolutionnaire des arts. Les maquettes, les costumes, les croquis, les portraits, presque 103 œuvres, sont réunis pour nous entraîner sur la scène et dans les coulisses. Se souvenant de sa rencontre avec Diaghilev, Jean Cocteau devait écrire en 1939. J'étais à l'âge absurde où l'on se croit poète et je sentais, chez Diaghilev, une résistance polie. Je l'interrogeais. « Étonne-moi, me répondit-il, j'attendrai que tu m'étonnes. » Et Cocteau continue. Cette phrase me sauva d'une carrière de brio. Je devinais vite qu'on n'étonne pas un Diaghilev en 15 jours et de cette minute, je décidai de mourir et de revivre. Quant à nous, nous, les spectateurs du XXIe siècle, nous sommes toujours étonnés. Même si nous pensons connaître les dessins de Léon Basque, d'Alexandre Benoît, de Natalia Goncharova, Chirico, Juan Gris, Braque, Picasso, même si nous entendons encore les airs de Stravinsky, de Rimsky-Korsakov, de Debussy, Ravel, Haydn ou Satie, même si nous devinons les mouvements d'Ida Rubinstein, d'Anna Pavlova, de Kirsi Fina, de Nijinsky dans les chorégraphies de Fokine, même si tout ça, les ballets russes sont entrés dans notre mémoire et ne nous ont jamais quittés. cherchant à montrer la culture russe et à démontrer qu'elle n'était pas en retard face à celle de l'Occident, Diaghilev, fort du succès des précédentes saisons russes à Paris, eut l'idée de présenter le ballet russe, entité qui n'existait pas en Russie. Et la première saison ballet russe a débuté le 19 mai 1909 au Théâtre du Châtelet à Paris. En 1911, la troupe devient compagnie permanente à Monte-Carlo, comme un vecteur de l'avant-garde scénique et en général artistique, explique Garesevski. Cette entreprise a en effet modifié la perception de la danse. Alors, modification dans la forme et dans le fond aussi. Un seul exemple pour la forme, mais il a son importance, et particulièrement pour les danseurs. Je pense aux jeunes hommes danseurs. Ce n'est pas Nureyev qui nous aurait contredit. Nijinsky invente le bond. Claudel disait la victoire de la respiration sur le poids. Et Nijinsky semble suspendu en l'air. On découvrit alors que le danseur peut échapper à son rôle limité et un peu ridicule, avouons-le, de figurant et de porteur. Les nouveautés sur le fond de l'art de la chorégraphie sont venues parce que Diaghilev révèle les rapports que le nouveau ballet entretenait avec la peinture, la musique, la poésie, la photographie, le cinéma. Tout ça, c'est encore du mouvement, le mouvement plastique, la haute couture, la critique littéraire et encore sous bien d'autres formes puisque l'art nouveau englobait tout. En fait, cet art nouveau, c'était l'art total, comme l'aurait souhaité Richard Wagner. Les ballets russes n'eurent que 20 ans d'existence, mais quelle fulgurance! Depuis le pavillon d'Armide, le fameux 19 mai 1909 dont on a parlé au Châtelet, jusqu'au bal, le 9 mai 1929 à Monte-Carlo, combien de titres surgissent? Cléopâtre, l'oiseau de feu, Petrouchka, le sceptre de la rose, l'après-midi d'un faune, etc. La mort de Diaghilev à Venise en 1929 fut considérée comme la fin d'un miracle. Sans doute, mais ce miracle est devenu permanent, car le ballet russe, Diaghilev disait ainsi au singulier le ballet russe étonne toujours le monde.